Espace 2. Nectar, Nicolas Julien.
Avec Sacha Unger en régie, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Nectar, le magazine culturel d'Espace 2. La grève des femmes, c'est dans un mois, le 14 juin prochain. On anticipe un peu aujourd'hui et on va parler de sororité, la fraternité au féminin, par le biais d'un livre collectif à paraître cet été. Geneviève Bridel, bonjour.
Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le livre s'intitule « Tu es la sœur que je choisis ». C'est un recueil de textes collectifs et c'est vrai qu'il donne envie de dire liberté, égalité, sororité. On en parle dans un instant avec nos invités Laurence Boissier et Ursula Gaillard.
Juste avant cela, on s'en va flâner comme ça par la pensée, par les oreilles, du côté de la Croisette. Bonjour Raphaël Boucher.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes en direct du 72e Festival de Cannes qui a débuté hier avec en ouverture le film de zombies de Jim Jarmusch. On va en parler dans un instant, mais avant cela, un mot du président du jury, le cinéaste mexicain Alejandro Iñárritu, qui a tenu avec ses 8 collègues hier après-midi la traditionnelle conférence de presse où vous étiez.
Voilà, oui, premier président latino-américain de toute l'histoire du festival, Iñárritu, c'est pas rien. Mmh. Cinéaste par ailleurs doublement oscarisé. Une conférence de presse qui était sans déclaration tonitruante. Un président qui a dit ne pas vouloir juger les films, mais plutôt s'en imprégner. Forcément, il a été interrogé sur l'état du cinéma mondial et sur les nouveaux canaux de diffusion en particulier. Il a dit son attachement à la salle de cinéma, mais quand même avec certaines nuances. Pour mémoire, le festival a décidé d'exclure, après l'édition 2017, tout film qui n'était pas prévu de sortir en salle. Oui. Et donc le géant Netflix, enfin voilà, et le conflit qui oppose le festival à Netflix n'a pas été tout à fait résolu. Iñárritu, sans prendre position très frontalement dans ce conflit, a affirmé que pour lui, tous les formats d'écran peuvent et doivent cohabiter.
Peut-être que
s'il y a 200 ans, on avait dit à quelqu'un qu'un jour, dans un véhicule, on écouterait Beethoven sur son autoradio avec des petits haut-parleurs de voiture, on aurait crié au scandale par rapport à ce que Beethoven est en salle de concert. Mais il y a toute une diversité aujourd'hui de formats et nous devons aussi tenir compte du fait que des films doivent être montrés partout dans le monde. La France est une exception. La France protège son cinéma. Mais combien y a-t-il de films que nous allons pouvoir voir aujourd'hui? Tous ces films que nous allons voir dans les 12 jours à venir, combien de ces films vont être montrés partout? Donc, Netflix aussi capitalise sur ces films qui peuvent être montrés à la télévision. Donc, c'est une excellente chose. Donc, il faut que de plus en plus de gens puissent faire l'expérience de ces films et du cinéma.
Et aux côtés du président Iñárritu, 4 hommes et 4 femmes, vous l'avez dit Nicolas, un jury donc presque paritaire. La chose a été soulignée plusieurs fois hier lors de la conférence de presse. On sent en fait que sur la question des femmes, qui va continuer certainement à alimenter les débats cette année, le festival est très prudent, marche sur des œufs et veut montrer que depuis l'an dernier, la vague MeToo et la signature d'une charte en faveur de la parité, des efforts conséquents ont été accomplis. On en voit quelques effets déjà en sélection officielle, par exemple dans la compétition, où on a à côté de mastodontes ultra célèbres, déjà venus, déjà palmés comme Tarantino, Ken Loach ou les Dardenne, on trouve quand même quelques outsiders, dont 4 femmes, ce qui est un record, même si c'est un record évidemment encore un peu misérable.
Oui, encore un petit effort, messieurs.
C'est ça.
Peut-être des jeunes aussi, qui sait. Allez, peut-être des jeunes cinéastes. Alors, parlons d'un plus tout jeune cinéaste, mais quand même toujours intéressant, le film d'ouverture de Jim Jarmusch.
Un grand habitué du festival, ouais.
Oui, certes. The Dead Don't Die, c'est son nouveau film. Il a été projeté hier soir sur la Croisette. Jim Jarmusch entretient une longue histoire avec le festival. Il a reçu la Caméra d'Or en 1984 pour Stranger Than Paradise. Il est revenu ensuite régulièrement en compétition et signe cette fois son premier film de zombies avec Adam Driver, Bill Murray et Tilda Swinton.
Comme quoi, même si on est un vieux cinéaste reconnu, on peut quand même se renouveler. Alors, on croise, oui, dans ce film aussi Chloé Sevigny, en flic un peu hystérique, deux vieux amis musiciens et acteurs de Jarmusch, Iggy Pop en zombie amateur de café, et Tom Waits en ermite hirsute. Bon, moi, j'aime beaucoup le film, même s'il faut admettre que c'est pas un Jarmusch majeur, qu'il est un peu moins inspiré. Je dirais moins romantique que Only Lovers Left Alive, moins poétique que Patterson, pour parler de ses deux dernières fictions. Vous vous souvenez que Only Lovers Left Alive était un très beau film, un film de vampire. Oui. Le vampire est peut-être, je pense, la figure monstrueuse qui sied parfaitement au cinéma de Jarmusch. C'est souvent un aristocrate déprimé, le vampire qui vit un peu hors du monde. Alors, sans vouloir comparer Jarmusch à un vampire, il y a quand même quelque chose qui est commun. Jarmusch passe pour être un dandy, très cultivé, même parfois un peu snob, ce qu'il dément. Et il continue de produire des films en marge du cinéma dit mainstream, j'entends par là, en marge des blockbusters hollywoodiens.
Oui, et il fait même un peu peur sur certaines photos, Jim Jarmusch. Enfin, ce que vous voulez dire, Raphaël, c'est que les
c'est
zombies,
vous qui le dites.
J'assume, c'était pas forcément son truc au départ. Il est peut-être moins à l'aise dans ce genre.
Mais parce que je pense que les zombies ont un côté un peu trop bourrin pour lui. Ils attaquent en groupe, ils dévorent les vivants sans trop réfléchir. Et donc dans ce film, voilà, moi ce que j'ai aimé, c'est que l'ambiance est complètement apocalyptique. On a une terre qui est sortie de son axe, tout est déréglé, la nuit ne tombe plus, les animaux disparaissent et les morts sortent de leur tombe. Ambiance.
In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming.
Excuse me, we're closed. Get away from me!
What the hell was it? A wild animal?
This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen.
What was it, wild animals?
So what are you thinking?
I'm thinking zombies.
On dirait une bande-annonce d'un film d'horreur tout à fait traditionnel.
Oui.
Là, on a entendu Adam Driver qui disait à Bill Murray, je pense qu'il y a des zombies. Donc, les deux acteurs interprètent deux flics qui arpentent les rues de Centerville dans l'état de New York, qui sont comme figés, impassibles. Ils constatent, en fait, plus qu'ils n'enquêtent véritablement. Les zombies sont là, il faut les décapiter. Et tout cela va très mal finir, comme le répète à l'envi Adam Driver. Jamais Jim Jarmusch n'a été aussi explicitement politique. Quand je vous disais qu'il était peut-être pas très à l'aise avec le genre, le film raconte la destruction de l'humanité par l'humanité, avec un discours écolo, anticonsumériste, qui est très juste, mais qui est aussi très appuyé, un peu attendu. Je pense aussi qu'il a sous-écrit et un peu sous-exploité certains personnages. Peut-être qu'il y avait trop de monde, simplement, parce que c'est pas tellement le cinéaste de la foule, Jarmusch, c'est plus le cinéaste des duos et de la dualité, le côté jumeau très important dans son cinéma. Tilda Swinton, par exemple, qui est géniale dans ce rôle de chef des pompes funèbres, malheureusement, elle apparaît trop brièvement. Malgré tout, je trouve que le charme du film est vraiment là, il opère. Sa grande force, je pense que le film la tire de son humour très pince sans rire, c'est une vraie comédie malgré tout, de son rythme, de ses répétitions. On a toujours cette lenteur, cette langueur très jarmouchienne, même si c'est un film de genre avec des vraies scènes gore, je trouve que la grande habileté de Jarmusch, c'est de combiner les motifs qui sont voulus par le genre et de dicter toujours sa petite musique personnelle. Et c'est de là qu'émerge pour moi le grand bonheur de ce film, on ne s'ennuie pas un instant, c'est vraiment cet équilibre entre le cannibalisme et le raffinement.
Magnifique, Raphaël Boucher, merci. Et puis, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre des mois pour pouvoir juger sur pièce. The Dead Don't Die de Jim Jarmusch sort en salle aujourd'hui. À très vite pour de nouvelles nouvelles du festival. Peut-être demain,
demain,
qui sait, ou un autre
à
jour
demain,
dans
Nectar.
Merci beaucoup. Belle journée. On
merci
se quitte avec la une chanson du film parce qu'il y a des zombies, mais il y a aussi du rock'n'roll dans ce Dead Don't Die. Voici Backstabber du groupe Beans and Fatback. rock'n'roll est peut-être aussi un mort-vivant en soi, mais ça c'est une autre question. Backstabber, extrait de la bande originale du film The Dead Don't Die de Jim Jarmusch qui sort en salle aujourd'hui, qui a été présenté hier à Cannes, le festival. C'est jusqu'au 25 mai et on retrouvera Raphaël Bouchet sans doute demain dans Nectar. Place à notre thématique du jour.
Eh bien, c'est ce 14 juin, ce dimanche 14 juin 1981, qu'à 5 heures de l'après-midi, j'ai appris que le peuple suisse et la majorité des cantons avaient accepté l'initiative pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. Une initiative qui voulait l'égalité dans la famille, dans l'éducation, dans le travail, et qui voulait également l'égalité de salaire pour hommes et pour les femmes pour un travail de valeur égale.
Une voix que nos invités ont sans doute reconnue, Jacqueline Berenstein-Wavre, grande militante féministe de notre pays qui a contribué à faire inscrire l'égalité homme-femme dans la Constitution. C'était le 14 juin 1981. Un autre 14 juin approche et à cette occasion, 37 autrices et illustratrices de Suisse romande ont écrit un texte, un poème, dessiné aussi, sur ce qu'est leur quotidien, celui des femmes qu'elles connaissent ou sur le sort de femmes dans le monde. Tout cela constitue un recueil riche, varié, coédité par Le Courrier et Les Idées édition d'En Bas qui paraîtra mi-août, Tu es la sœur que je choisis. Et puis jeudi prochain, 23 mai, on pourra entendre quelques-unes de ces femmes lire leurs propres textes à la Galicienne à Prilly, dont vous, Laurence Boissier et Ursula Gaillard, qui nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui à l'invitation de Geneviève Bridel. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Cette avant-première, est-ce que vous la considérez comme un teasing éditorial ou avant tout comme une première contribution, une invitation à la grève du 14 juin ?
Une invitation à la grève, puisque la grève aura lieu après. Donc on espère que ça va motiver les troupes, non ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Merci, Madame Gaillard.
Alors, plus que les troupes, oui, c'est tout à fait une invitation à sortir de chez soi et puis à rejoindre le mouvement, si ce n'est déjà fait, bien sûr.
Et ce sera donc dès 18h30 à la Galicienne. Peut-être deux mots sur ce projet qui a un très beau titre sur lequel on reviendra. Tu es la sœur que je choisis. C'est vous, Ursula Gaillard, et deux autres auteurs qui en avaient eu l'idée. Donc Annick Mahin, avec qui vous aviez déjà écrit un essai, et Sylvia Ricci-Lempen, qui est romancière, essayiste, bilingue italien et français, qui va bientôt faire paraître son nouveau roman. Vous-même, vous êtes traductrice de Lecher, Bixel, Pedro Lenz, dont vous venez de traduire le dernier livre, et d'autres alémaniques. Vous êtes aussi essayiste et vous avez publié « Retard de règles », une étude historique sur le contrôle des naissances et l'avortement en Suisse dans la période 1900-1920. Et puis, à l'occasion de la grève des femmes de 1991, vous avez aussi publié un album. Quel est pour vous le but de ce nouveau livre ? L'album, on y reviendra, mais de ce nouveau livre, « Tu es la sœur que je choisis », 28 ans après la grève de 91.
Alors, « Tu es la sœur que je choisis », c'est une aventure littéraire collective, comme vous avez dit, dont l'initiatrice, j'aimerais insister là-dessus, est l'écrivaine Annick Mahin. Elle est donc autrice de plusieurs romans et récits, et elle a été contactée par la coordination romande pour une grève féministe et elle a eu l'idée d'accompagner ce mouvement avec un volet littéraire. Elle en a parlé à Sylvia Ricci-Lempen et à moi-même et c'est après cette discussion enthousiaste, c'est d'un seul élan que nous avons proposé à une quarantaine d'écrivaines, poétesses et traductrices de Suisse romande d'évoquer librement les discriminations liées au sexe avec leurs instruments propres, c'est-à-dire la poésie, le récit, le dialogue théâtral, et d'explorer tout ce que la littérature peut exprimer et qui ne relève pas de l'analyse sociologique.
C'est ça, il faut le préciser, il y a une grande liberté. Alors pour l'instant, on n'a lu que 5-6 textes publiés dans Le Courrier, mais il y a une grande disparité entre les 5-6 textes qu'on a lus, et j'imagine a fortiori pour 37 textes.
Alors, il s'agit de 32 textes.
32 textes, oui.
C'est pas... voilà.
7, les 5 autres, ce sont des illustratrices.
Voilà, et... Oui, disparité et richesse. Je crois vraiment que ça vaut la peine de mettre son nez et ses yeux et ses oreilles dans ce livre. Mais avant de lancer ce projet auprès de nos consoeurs, écrivaines, poétesses et traductrices, nous sommes partis en quête d'une maison d'édition, parce qu'il fallait une maison d'édition, et nous avons soumis notre projet à la rédaction du Courrier. Mmh. Et cette proposition, qui était la nôtre, a rencontré un accueil enthousiaste de la part de la rédaction du Courrier et des éditions d'en bas. Et c'est avec Anne Pitlou que nous avons établi un calendrier qui a été, et que nous avons envoyé aux autrices les invitations à écrire un texte. Nous trois, donc Annick, Sylvia et moi-même, nous avons géré la boîte aux lettres du projet jusqu'à la réception des textes, s'il y avait des allers-retours pour des précisions sur le nombre de lignes, sur le formatage, enfin des textes, etc.
Donc c'était les seules consignes, le nombre de signes, voilà. Et voilà.
Il fallait que ça puisse paraître sur une page, parce que la rédaction du Courrier a donc décidé de créer une page spéciale qui s'appelle page de grève et de, comme vous l'avez dit, d'inviter ensuite 6 ou 7 écrivaines de leur choix une fois par mois, mmh, en publiant un texte avec une illustration. Et ces illustrations, les textes qui sont parus jusqu'à présent, ce sont des poèmes d'Yvette Terola, un texte de Laurence Boissier, de Sylvia Ricci, d'Annick Mahin.
Et d'Ursula Gaillard.
Voilà, oui. Et ces textes ont été illustrés par Albertine, Adrienne Baumann, Fanny Vaucher et Myriana Farkas. Et le dernier sera illustré par Léandre Ackermann.
Alors, je me tourne vers Laurence Boissier, dont le texte Biotope a paru dans le Courrier. Vous êtes beaucoup de choses, Laurence. Vous êtes à la fois auteure, romancière, primée par le prix suisse de littérature en 2017 et plein d'autres prix pour rentrer des classes. Et vous êtes surtout performeuse dans le cadre du collectif Bern ist überall. Et ce texte-là, était-il un texte qui était déjà dans vos tiroirs et que vous aviez déjà performé avec ce collectif et que vous avez repris pour le Courrier, ou c'est la demande de vos consoeurs qui l'a motivé?
C'est la demande, parce qu'elle demandait des textes inédits, ce qui était une bonne chose, parce que je pense que pour la plupart d'entre nous, on a laissé émerger la préoccupation du moment. Donc c'était mon cas. J'ai pas du tout écrit un livre pour être lu sur scène. C'est de la prose, un texte pour être lu sur scène, puisque c'est de la prose. Et ma préoccupation du moment, elle est complètement reflétée dedans. Aujourd'hui, je n'écrirais pas le même texte.
Les chimpanzés. C'était votre préoccupation
oui,
sur le moment.
Oui. J'ai lu beaucoup de livres sur l'évolution, justement, sur les animaux. Je sortais d'un livre sur les chimpanzés, exactement.
Alors, justement, les thèmes, les sujets des textes qui vont paraître à la fin de l'été, on peut le dire, Ursula Gaillard, sont très variés. Et je voudrais que vous analysiez, au fond, ceux qu'on peut déjà commenter, ceux qui sont déjà sortis dans le Courrier. Mais à commencer peut-être par le vôtre, qui s'intitule « Zone franche ». Et à un moment, dans « Zone franche », vous parlez du fait que le privé est politique.
Oui.
Et je voudrais que vous expliquiez d'abord cet argument. Le privé est politique, c'est parce qu'on les anti-féministes reprochent toujours aux femmes de parler de leur vie personnelle et non seulement politique et professionnelle.
Non, je crois pas. C'est, enfin, ça peut, ça pourrait être ça, mais je crois que c'est plutôt, c'était un slogan et une conviction du mouvement féministe des années 70, disant que et ça devient très très frappant aujourd'hui quand on lit les 19 revendications du manifeste pour la grève du 14 juin de cette année. C'est que ce qui concerne le corps des femmes, c'est pas privé, c'est politique, parce qu'il s'agit de maternité, il s'agit de reproduction, oui. il s'agit de sexualité, c'est politique. Et disons dans le texte que j'ai écrit, j'ai repris cette, disons,
cette phrase
qui, dont je me suis souvenue, parce que, bon, à l'époque, j'étais déjà assez âgée pour m'occuper de ces choses-là. Eh bien, dans ce texte, ce qui me frappe, c'est que, comme je connais assez bien le milieu des réfugiés et des migrantes et des immigrés, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de choses qui leur arrivent et beaucoup de raisons pour lesquelles elles viennent ici, elles sont absolument pas reconnues comme étant des motifs. Justement, c'est du privé. Mm-hmm. Alors si l'homme qui vous a violé il est officier, ça reste du privé, mais c'est pas du privé. Je veux dire, c'est de la violence d'État, mmh, en plus de la violence individuelle,
personnelle.
Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai repris ce slogan des années 70. Et aujourd'hui, quand on voit le manifeste, c'est très très clair que une des questions importantes, c'est la question du corps, de la sexualité et de la violence.
Mmh. Alors un extrait peut-être de votre texte. Nicolas.
Nous n'appartenons pas au même continent, et pourtant, j'ai mal à sa vie, dit quelque part Charles Juliet. Pas à la sienne seulement, me dis-je. Le débit saccadé de Ficrie réveille en moi le souvenir tapi en embuscade d'un père solaire caressant les ailes d'un cygne sur une grève, le dimanche, et celui d'un père ténébreux pointant son pistolet d'ordonnance sur sa femme, la nuit, au paroxysme d'une dispute.
Ça mérite peut-être une explication. Il y a de l'autobiographique là-dedans, Ursula Gaillard ?
Oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr, oui.
Du coup, je vous mets mal à l'aise, mais c'est l'idée quand même de parler de cette migrante et puis de revenir à vous, de se dire, même si on croit qu'on est plus émancipé sous nos latitudes, c'est pas vrai ?
Disons, ma condition pour essayer d'écrire quelque chose pour ce livre, c'était de m'impliquer, c'est-à-dire, bien sûr, la situation des femmes qui viennent ici est souvent, mais vraiment dramatique, est incomprise, est pas entendue, mais là, il y a une résonance, c'est-à-dire ces violences, elles existent ici. On sait que c'est pas parce qu'on a une votation là-dessus, hein, ça c'est un hasard, mais la question du fusil à la maison, en tout cas moi je l'ai vécu à la maison par un père que par ailleurs j'adorais évidemment, et la question de l'habillement aussi.
Oui.
Une femme voilée ou une femme vêtue de brun, de noir. Mais quand moi j'étais jeune, c'était interdit de sortir en short. Je me souviens, j'ai pris une amende de 5 francs à Cuy par le gendarme parce qu'une fois je suis sortie en short à 16 ans. Oui. Donc, voilà. Mais bon, je suis pas très jeune. Donc, ça a changé, ça.
Mais il y a toujours ce miroir.
Ce décalage, une femme qui vient d'ailleurs et qui arrive ici avec des codes vestimentaires qui sont ceux de son pays, c'est pas tellement c'est pas la même chose, mais ça
rappelle des choses
notre
vécues.
Notre histoire, elle parle de ça aussi.
Et c'est ça qui est très intéressant dans ce symbole du 14 juin, évidemment, parce que ça renvoie à ce 14 juin 1981 qu'on a évoqué, à la grève de 1991, également le 14 juin. Donc il y a comme ça cette mise en rapport de différentes époques. Et c'est aussi quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les textes, les premiers textes en tout cas qui ont été publiés de ce recueil à paraître, Tu es la sœur que je choisis, notamment le vôtre, Laurence Boissier, où il est question d'une transmission aussi mère-fille.
Oui, alors je parle de ménopause. Apparemment, il y a beaucoup de textes dans ce recueil qui vont parler de mère-fille. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le tronc commun, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va essayer d'améliorer la situation peu à peu en parlant à nos filles. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Mais j'avais aussi envie de rassurer ma fille qui me regarde avec des grands yeux en disant je pense qu'elle me regarde en disant mais je comprends pas comment elle peut être heureuse. Voilà. Alors j'avais envie de la rassurer.
En même temps, elle a l'air assez avertie parce que dans votre texte qui est vraiment très humoristique, c'est le registre que vous avez choisi et où vous excellez, Laurence Boissier, on voit qu'elle se laisse pas, elle va pas se laisser avoir. Je laisse peut-être Nicolas lire un court extrait.
Quand des bouquetins doivent négocier un passage délicat sur un versant abrupt, ils envoient une femelle stérile prendre la tête de la harde. Si une roche se décroche sous elle, la perte sera moins grande et les autres seront prévenus de trouver un autre chemin. Tu me dis de faire attention aux précipices. Mais où vas-tu donc chercher des comparaisons pareilles, ma chérie ?
Voilà, parce que le début du texte, on voulait pas le lire en entier parce qu'il est à découvrir à la Galicienne la semaine prochaine à Prix. Le début du texte s'inspire de vos réflexions sur les chimpanzés et oui. des artifices que les femelles font pour indiquer qu'elles oui. vont se reproduire, qu'elles sont prêtes à se reproduire.
Oui, je mets les femmes jeunes et fertiles dans la jungle et les autres dans la savane. Je dis que dans la jungle, il y a plus d'arbres, mais que dans la savane, il y en a moins, mais qu'on les voit mieux.
Voilà. Et tout d'un coup, c'est votre fille à qui vous vous adressez qui retourne oui. le problème.
Oui. Voilà.
C'est-à-dire qu'elle veut dire que quel que soit l'âge, on n'est jamais à l'abri.
Oui, exactement. Oui. Elle a pas envie que je lui fasse la leçon, en fait.
Oui. Mais au-delà de l'ironie et de l'humour, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de fatalisme sous-jacent, de résignation contre laquelle vous luttez toutes les deux, de se dire « c'est toujours pareil depuis la nuit des temps, chez les animaux comme chez l'homme ».
En tout cas, pas une raison de pas changer, justement, enfin, s'appuyer sur ce qu'on a été pour aller plus loin. Et puis c'est vrai qu'il y a une sorte d'impatience parce que les choses vont tellement lentement. Donc c'est ça qui est frappant.
Oui.
C'est la lenteur.
28
mais,
ans déjà.
Ça marche, ça va dans le bon sens, mais c'est lent, non, Ursula ?
Oui, c'est très long et il y a un peu d'impatience dans l'air. Il y a eu des changements, et ces changements... Quand il y en a eu, ça a toujours été après une lutte, et une lutte opiniâtre, déterminée. Et ça, c'est très important. Et il y a de la joie dans la lutte, mais il y a de la nécessité dans la lutte.
Laurence Boissier, pardon.
Non, je vous en prie, mais je le viens.
Laurence Boissier, il y a une autre écrivaine qui prend le registre de l'humour, c'est Annick Mahin, avec son titre « Depuis que je sais me mettre en quatre ». Vous l'avez lu, j'imagine.
Oui, j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. C'est fantastique, elle parle tellement bien de la charge mentale.
La charge mentale, c'est-à-dire
oui, c'est-à-dire que on a tout le temps, enfin on j'ai vu une situation privilégiée maintenant, mais j'ai connu aussi ce stress où on doit tout le temps, on a plusieurs projets à la fois, mais c'est des projets très concrets, faire à manger, enfin aller chercher le petit à l'école, voilà, mais c'est ce cumul là qui rend stressé, et je trouve que enfin elle a une super belle plume.
C'est vrai qu'on voit une femme se transformer, avoir de plus en plus oui. de bras comme une oui. divinité hindoue pour tout faire à la fois.
Oui, c'est très drôle.
C'est drôle.
Elle devient Wonder Woman, à un moment donné Catwoman, elle se transforme. Mm-hmm. C'est très drôle.
L'humour, c'est plus efficace que la récrimination ?
Ah, certainement.
Oui.
Certainement.
On va parler de ce qui a changé néanmoins, du moins j'espère, depuis la première grève de 1991, du 14 juin. On va entendre un tout petit son d'une gréviste d'alors.
Je crois que ça va changer chez moi. J'ai bien l'impression. Il me semble que mon mari, ces quelques jours, a énormément changé. En bien.
Son mari a changé.
De là, peut-on être optimiste ? Je vous vois un peu attendrie, mais pas tout à fait convaincue, Ursula Gaillard.
Oh, si, je suis quand même convaincue qu'il y a des tas de choses qui ont changé et que ça valait la peine de lutter, mais ça ne suffit pas. Moi, vous avez demandé ce qui a changé concrètement. Alors, ce que disons, ce qu'on peut dire, c'est que... dans le manifeste, par exemple, pour la grève du 14 juin, qui a été donc élaboré collectivement, c'est un très long travail que les femmes ont fait ensemble, ça commence par la reconnaissance de ce qui a été, qui a changé depuis 91. Et bon, c'est des choses très, très importantes. C'est d'abord, on a eu droit à une loi d'application sur l'égalité, à un congé maternité. Mais ça a duré des années, hein, du théâtre de rue et tout ce qu'il fallait, une initiative pour avoir un congé maternité. Le splitting et le bonus éducatif au niveau de l'AVS.
Splitting, partage des tâches.
Non, c'est le partage de la rente. Mm. Et le bonus éducatif est attribué en principe à celle et, ou celui, mais c'est souvent celle bien sûr, oui, qui est restée à la maison 2-3 ans pour avoir, et puis qui est donc péjoré au niveau de, du montant de l'AVS. Alors il y a une compensation. Mm-hmm. Voilà. Et puis, on a eu la solution des délais pour l'avortement, aussi une sacrée lutte. Hein, et ça, c'est une chose qu'il faut continuer à défendre parce que c'est toujours
menacé,
ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Et il y a des mesures de lutte contre les violences domestiques qui sont intervenues. Alors ça, c'est ce qui a changé. Mais tout ce qui reste à faire, c'est que, par exemple... il y a une chose très, très frappante, c'est qu'il y a une augmentation des écarts salariaux dits inexpliqués. Et l'intérêt de la littérature, c'est justement aussi dans le inexpliqué, parce que ça a à voir avec les mentalités et les images réciproques des uns et des autres. Donc, c'est une augmentation et ça représente 650 francs par mois quand on est femme en moyenne. En plus, les écarts augmentent avec les postes à responsabilité. Il y a des femmes de l'Office fédéral de la statistique qui sont en train de sortir des statistiques particulières sur des questions hommes-femmes. Et c'est très intéressant parce qu'on creuse un peu le problème à d'autres niveaux que juste, disons, à un niveau général. Mm-hmm. Et puis, ce qui aujourd'hui est très important et qui a été apporté par le mouvement MeToo et qui a donc vraiment relancé la lutte pour les revendications féminines et féministes, c'est la question du corps et de la sexualité qui est abordée de façon extrêmement ouverte. Maintenant, transgenre, enfin, toutes ces problématiques sont maintenant absolument sur la table et en discussion à tous les niveaux. Et je trouve que dans le texte d'Yvette Terola, cette question de, justement, de la sexualité, elle est présente. Et moi, je me souviens avoir, ce poème n'a jamais été publié, mais elle avait chanté ça. Je me souviens que je l'ai entendu chanter ce poème-là. Donc, il n'existait pas sous forme écrite, mais il a existé sous forme chantée.
Donc, c'est la première fois qu'on lira dans ce recueil. Tu es la sœur que je choisis.
Voilà. Et c'est vrai que c'est un texte d'une force tout à fait hallucinante. Il commence par « Ils ont fait de moi un trou ». Et tout le reste est à l'avenant.
C'est très violent.
Oui.
Une chose étonnante qui a changé quand même aussi depuis 1991, c'est le fait qu'on ait aujourd'hui une majorité de femmes au Conseil fédéral, ce qui ne signifie pas forcément que l'égalité ruisselle depuis le haut dans toutes les couches de la société, on l'a bien compris.
Oui.
Mais c'est quand même quelque chose d'assez étonnant qu'on pouvait peut-être pas imaginer en 1991.
Non, pas du tout. Et il a fallu d'ailleurs la veille des femmes en 2004, hein, il y a des femmes qui ont dormi sur la place fédérale dans une caravane bleue pendant 9 mois, et qui ont écrit un journal à partir duquel il a été fait un livre qui s'appelle Elle, jour et nuit, que Diane Giard a écrit et qui est paru aux éditions Mentally. Donc si jamais il y a encore un livre sur un autre événement important de cette longue lutte.
Une dernière question peut-être sur ce mot de sororité qu'on utilisait en début d'émission et le titre du recueil « Tu es la sœur que je choisis ». Est-ce que la sororité, si j'ose cette comparaison un peu hardie avec la violence domestique dont on sait qu'elle n'est pas du tout liée au contexte social, économico-social pour la violence, est-ce que la sororité, elle est plus perceptible dans certaines catégories de femmes, ou pour vous c'est quelque chose de vraiment transversal? Il n'y a pas des pays où elle est plus présente, où elle se manifeste plus à cause de la culture? Vous posez une colle.
C'est un peu emprunté pour répondre, mais je crois qu'on a tendance aussi à présenter souvent les femmes comme rivales. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai vécu d'extraordinaire dans mon existence, quand je me suis engagée sur des questions de garderie, de congé maternité, en fait, etc., ou bien en faisant cet album.
Et maintenant,
avec Tu es la sœur que je choisis, c'est vraiment une amitié, une chaleur incroyable quand on se met en mouvement. Et ça, c'est très précieux. Et je voudrais juste dire encore pour le titre, mais
oui,
ce titre, il vient du premier dessin, de la première illustration qui accompagne le texte de Sylvia Ricci. Nous n'avons proposé aucun titre, et c'est venu de la rédaction du Courrier qui a vu cette bulle du dessin de Fanny Vaucher, et voilà, c'était le titre.
Tu es la sœur que je choisis.
Comment est-ce que ce titre résonne en vous, Laurence Boissy, cette idée de sororité? Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Moi, ça m'évoque le problème de la langue qui n'a pas encore été résolu.
Oui.
On me parle toujours de mes lecteurs. Quand on me dit « et vos lecteurs ?», j'ai toujours envie de répondre « mais non, il y a aussi des femmes qui me lisent et j'ai toujours ce problème avec les mots quand j'écris aussi. » Donc il y a peut-être une solution là qu'il faudrait trouver.
Liberté, égalité, sororité.
Voilà. Oui.
Merci beaucoup à toutes deux d'être venues aujourd'hui, Ursula Gaillard et Laurence Boissier, deux des autrices et dessinatrices du recueil Tu es la sœur que je choisis, qui est coédité par les éditions d'En Bas et Le Courrier. Il paraîtra le 16 août avec ses lectures publiques le jeudi 23 mai à la Galicienne à Prilly à 18h30. C'est une soirée animée par notre collègue Laurence Froidevaux.
Voilà. Et puis je peux encore juste dire Agathe Rabou qui lira le texte d'Yvette Terola, parce qu'Yvette ne peut pas être là. Et elle a elle-même un projet pour faire circuler ses textes sous forme de performance.
Voilà. Et puis, bravo. Je signale également votre nouvel ouvrage, Laurence Boissier, Safari, oui, paru aux éditions Art et Fiction, qui prolonge d'une certaine façon ce texte biotope qu'on peut découvrir dans ce corpus, autour des animaux également.
Des femmes aussi, oui. Wonder Woman aussi est là.
Et des figurines de pâte de sel.
On en reparlera. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux. Belle journée.
Merci à vous.
Merci à vous, Geneviève.
À bientôt.
À bientôt dans Nectar.
Sourire avec ta Cathy Taquité, déguster le cocasse bestiaire de Francis Poulenc, se balancer sur Swing Down Chariot, voilà à quoi ressemble une soirée passée en compagnie du Quatuor à dames. Ce quatuor vocal masculin touche à tout sera l'invité de la tribune des jeunes musiciens pour un concert a cappella dimanche 26 mai à 17h au studio Ansermet de la RTS à Genève. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Un concert à suivre en direct sur Espace 2.
Je suis femme, je suis érotique. Érotique, chatte et tigresse, superbement féminine. Je vous aime, je vous désire, désirez-moi, aimez-moi, prenez-moi. Ah, je vis pour ça, oh ouais, désirez-moi, fantasmez sur mon corps, il est là pour ça, voyez. Bon, imaginez. Je suis femme, je suis érotique, terriblement érotique. Je suis multiple, achetez-moi multi-pack. Femme action, femme sol, femme pneu, femme cigarette, femme loisir, femme lessive, femme auto, femme chocolat. Dans toutes les vitrines, dans tous les cinémas, dans tous les magazines, dans tous les kiosques, dans tous les aéroports. Je suis nue, j'écarte les jambes, je suis chevauchée, je suis heureuse sur la couverture des magazines. Oh. Oh. Je veux être la femelle
que tout homme membré rêve d'inonder et de conquérir.
Soyez comme les talons qui rôdent et frôlent, laissant supposer qu'avec lui, jouir, c'est peu dire. Méprisez-moi, soyez le maquignon qui évalue et soupèse les formes et les chairs.
Soyez belle comme le jour, belle comme l'amour. Mesdames, choisissez dans la série des rouges. Le rouge qui tient, le rouge qui tourne, le rouge qui tâche, le rouge qui est bleu, le rouge framboise, le rouge à soir, le rouge cerise. La série des ombres, l'ombre à paupières, l'ombre à pommettes, l'ombre à menton, l'ombre à sourcils, l'ombre pour cacher, pour camoufler, pour agrandir, pour éclaircir. Dans la série des poudres, crèmes, lotions, émulsions, masques, toniques, etc., 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 etc. Mêle d'un jour, maquille plus blanc, folie d'une nuit, on lève les taches rebelles, tigresse de soir, lâche ses enzymes gloutons, bêtise d'une heure, maquille sans repas. Oh, pauvre petit chou. Dans la série angoisse d'une femme, mon poids, ma peau, mes mains, ma taille, mon nez, mes hanches, mes cheveux, mes veines, mes rides, mes chevilles, mes ongles, mon teint, mes genoux, mes mains, mon cou, mes seins. Je m'épile, me malaxe, me pèse, me manucure, me permanente, me teint, me laque, me masse, me tais, mais je plais, je me spray, me make-up, me peeling, me lifting, mais je séduis, dans la série seconde peau. Pantalon serré, collant, moulant, excitant. Décolleté, savant, bateau, plongeant, pigeonnant. Souliers petits, trop étroits, trop pointus. Mais on m'a vu, coucou. Pour être la plus belle, pour être la plus belle, mesdames, profitez. Opération, bajou, pas de doigts, culotte de cheval, cellulite, rite, poche, bourrelet, molette, cycliste, pour séduire, érotiser, enrubaner, lacer, poudrer, désirer, voiler, piluler, toucher, couler. Je suis femme, femme, je suis érotique, terriblement érotique. J'ai des tigresses, superbement féminines. Oh, je vous aime. Wow!
Waouh, en concert en 1991 avec Dominique Rosset au piano, Yvette Terrola, démonstration extrêmement éloquente de ce qu'on attend d'une femme si on se fie aux publicités et aux images des magazines. Alors la grève des femmes va-t-elle toucher le monde encore très masculin de la musique classique? À vérifier ces prochaines semaines, on le sait bien, sur nos ondes, les chefs d'orchestre ou les compositrices sont encore très minoritaires dans les programmes de concert ou auprès des maisons de disques. En voici une, au parcours tout à fait flamboyant, une des compositrices les plus en vogue de notre temps, la sud-coréenne Un Suk Chin, dont on écoute ici un extrait du concerto pour violon et orchestre.
Thank you.
une des rares compositrices dont on joue et enregistre les œuvres auprès des plus grands orchestres, la sud-coréenne Hoon Suk-jin, ici dans cet extrait de son concerto pour violon avec Viviane Hager en soliste et l'orchestre symphonique de Montréal dirigé par Kent Nagano. Alors si le classique est encore très masculin, que dire du jazz? Les compositrices là aussi sont bien rares, mais on en connaît quelques-unes et pas des moindres en Suisse, comme la pianiste Irene Schweitzer, à qui on doit ce morceau au titre énigmatique Sisterhood of Spit, la sororité du crachat. Je vous laisse l'interpréter comme bon vous semble. Sisterhood of Spit, Irene Schweitzer en concert pour terminer cette émission consacrée à la sororité. Merci à Sacha Unger qui l'a réalisé. Merci à Héloïse Nussbaum, notre attachée de production. Demain dans Nectar, on va vous parler de Freddie Mercury à l'occasion de l'apparition d'un roman graphique dédié à la trajectoire flamboyante du chanteur de Queen. Je vous souhaite une excellente après-midi. Voici le journal de Zoé Decker.